BW Magazine Santé.
Le monkeypox continue de se propager et selon l'Africa CDC, plusieurs variants du virus qui est signalé également hors du continent africain ont été répertoriés. Dans ce magazine, nous revenons donc sur l'origine, les symptômes, la prise en charge des malades, mais aussi les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons environ 70% des cas en RDC qui sont des enfants de moins de 15 ans et environ 40% sont des enfants de moins de 5 ans. Hélas aussi, on voit un taux de létalité qui est 4 fois plus important chez les enfants que chez les adultes. Pour les enfants de moins d'un an, on voit un taux de létalité de 9% presque. Et on sait qu'en RDC, 62% des décès rapportés étaient des enfants qui avaient moins de 5 ans.
Wana Mihai est la directrice humanitaire de Save the Children en République démocratique du Congo. Elle revient ainsi sur le constat fait en ce qui concerne la propagation du Mpox dans ce pays qui est le plus gravement touché par l'épidémie actuelle.
En RDC, nous avons constaté effectivement que la tranche d'âge qui allait de 0 à 1 an et celle qui allait de 0 à 15 ans était le plus à risque. Donc en gros, les enfants qui ont moins de 15 ans sont ceux qui sont plus à risque. Et aussi, ce qui est le plus inquiétant, c'est aussi le fait que ce sont ces enfants de moins de 15 ans qui constituent environ 60% des déplacés que nous avons actuellement à l'Est et qui vivent dans les camps de déplacés. Comment est-ce qu'on peut expliquer la forte contamination des enfants, surtout en RDC? De un, c'est leur situation de faible immunité, qui est en plus affaiblie par les conditions humanitaires qui sont problématiques. Mais aussi, il y a la question de la couverture vaccinale. Dans certaines zones, il y a moins de la moitié des enfants qui ont été vaccinés, par exemple, contre la rougeole, la polio et la diphtérie. La deuxième raison, c'est celle sur la confusion qui pourrait être faite sur les symptômes. Donc, dans le cas des symptômes qui sont présentés, donc d'une part entre la variole Mpox et la varicelle et la gale, qui présentent en fait les mêmes symptômes.
Alors justement, quels sont les symptômes? Comment se fait la prise en charge des malades, mais aussi les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé par le Mpox? On en parle tout de suite avec le docteur Serge-Michel Codom, président de M-Afrique, une organisation internationale pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Le docteur Codom est aussi membre du conseil d'administration de Africa CDC.
Avec les changements climatiques et tout ce qui va avec, et on assiste à de nouvelles formes. Et une nouvelle forme donc du virus a été donc détectée, qui est plus dévastatrice. Et la transmission se fait beaucoup plus par voie sexuelle, c'est ça qui est encore particulier. On a noté effectivement une évolution donc du virus qui a subi certainement une mutation. Et vous savez, le continent africain malheureusement est plus touché par cette nouvelle forme de virus et beaucoup plus en Afrique au sud du Sahara. C'est cette zone justement qui paie le lot tribut donc des maladies sexuellement transmissibles, à savoir le VIH et aussi la malnutrition. Donc avec ces facteurs de risque, à savoir les personnes immunodéprimées très élevées dans cette portion de l'Afrique, et lorsque malheureusement ces personnes seront en contact avec le virus de Mpox, ils peuvent donc décéder. Et c'est ce que nous avons constaté justement, que de 2022 à 2023, on a eu une progression de 70% des cas de contamination. La même période, 2023-2024, c'est plus de 160% de contamination. Ça veut dire que le virus, effectivement, aujourd'hui, traverse les frontières. Les données ont été éprouvées dans ce sens et il faut aller vite.
Le Mpox se transmet de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'homme. Quelles sont les populations, les personnes les plus vulnérables qui peuvent facilement contracter la maladie et comment justement concrètement se fait la transmission?
Il faut noter que la variole du singe est une maladie qui a été détectée depuis dans les années 70, qui est la forme un peu atténuée donc de la variole humaine. Mais comme on le dit, la variole du singe était beaucoup plus retrouvée chez les animaux. La variole du singe est une zoonose, cela veut dire tout simplement qu'il y a une transmission de l'animal à l'homme. Le mode de transmission de l'animal à l'homme se fait à partir des rongeurs. Et au niveau de la Gambie, c'était beaucoup plus avec les écureuils des forêts et des rats. Et donc, au niveau donc, de la RDC et de la Centrafrique, c'est beaucoup plus au niveau des singes. Maintenant, on a constaté la transmission interhumaine, c'est-à-dire le contact direct entre l'homme malade à travers les lésions cutanées et les fluides biologiques. Et on a constaté que si quelqu'un contacte la maladie et vous restez auprès de cette dernière pendant un certain temps et que les lésions cutanées s'éclatent et deviennent des croûtes, vous pouvez donc être contaminé à travers donc les liquides ou du moins les fluides biologiques. Et également, il a été décelé que à travers donc les rapports sexuels, c'est-à-dire la transmission par voie sexuelle également, a été donc décelée. Donc c'est toujours la transmission de l'être humain à un autre être humain. Également, il a été donc décelé qu'à travers donc des gouttelettes respiratoires d'une personne infectée, la maladie peut être propagée. C'est là aussi que cette maladie devient un peu inquiétante. La transmission interhumaine est très développée aujourd'hui avec les mobilités et donc la stratégie de prévention doit essentiellement reposer sur l'information et la sensibilisation. Informer le personnel médical pour qu'il prenne conscience du risque par rapport au diagnostic qui doit être beaucoup plus orienté donc vers cette maladie parce qu'à côté, il y a certaines maladies telles que la varicelle où on a des éruptions cutanées. Il y a également la rougeole, dans laquelle on a des lésions cutanées, sans oublier également qu'il y a la syphilis et d'autres maladies qui peuvent donc se manifester par des éruptions cutanées. Donc, le personnel médical doit être vraiment sensibilisé et lorsque vous décelez aujourd'hui les lésions génitales, il faut rapidement aussi avoir à l'esprit de pouvoir faire demander des analyses en vue de faire le diagnostic donc de la variole du singe pour pouvoir donc juguler rapidement et maîtriser la transmission interhumaine.
J'aimerais qu'on parle aussi de la prise en charge, hein. Une fois que le diagnostic est établi et qu'on sait qu'une personne est touchée par le Mpox, comment elle est soignée?
Par rapport au traitement, il faut d'abord revenir sur les manifestations cliniques, c'est-à-dire quels sont les signes que présentent donc les patients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques parce qu'au départ, la variole du singe n'était pas une maladie très grave. C'est beaucoup plus chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire des personnes qui sont malnutries, qui ont le VIH, qui ont une tare, peut-être diabétiques, une hypertendue, bref. C'est comme un peu les comorbidités retrouvées dans les cas de COVID-19 dans le temps. Lorsque vous voyez un peu le début de la maladie, c'est beaucoup plus un syndrome fébrile, c'est-à-dire c'est comme un paludisme, un début de palud, les courbatures, les céphalées, la fatigue, donc une fièvre qui est donc là autour. Et donc après la phase de début, là, la phase éruptive, à savoir donc les éruptions cutanées viennent après, avec des petites taches, des pustules qui vont peut-être s'éclater, donner des croûtes. Maintenant, au niveau de la prise en charge, lorsque vous avez des lésions de la peau, il faut les nettoyer à l'eau et à un antiseptique. Également, les antihistaminiques sont très, très, très importants par rapport au grattage de la peau parce que la personne va se gratter et surtout lorsque les mains sont sales et le grattage est fort, la peau peut se surinfecter, du moins les lésions peuvent se surinfecter. Ici, il faut penser vraiment à cela pour pouvoir éviter ou réduire la transmission à travers donc les fluides, le liquide dans ces croûtes. Pensez à mettre des antihistaminiques pour réduire donc les lésions de grattage. Également, couvrir si possible hein, les lésions cutanées pour éviter le suintement parce que nous avons dit tantôt, le contact interhumain peut favoriser donc la transmission donc du virus. Si les lésions ne sont pas protégées, et qui s'éclate, vous voyez que le sentiment, il suffit que la maman ou bien un ami, un frère, un parent touche la personne infectée, tout de suite le liquide peut être donc vecteur donc de la contamination. Aujourd'hui, il y a une molécule qui est sur le marché, qui est commercialisée, mais qui est encore coûteuse. Donc par rapport à la disponibilité donc de ce produit, c'est là l'important donc de centraliser donc toutes les commandes pour pouvoir réduire au maximum le coût d'acheminement, de distribution avec la survenue donc de cette nouvelle épidémie qui est la variole du singe. Le directeur de CDC l'a dit, il y a déjà deux vaccins qui ont été homologués et près de 10 millions de doses donc ont été déjà commandées. Donc je pense que si tout va bien, les vaccins seront donc acheminés graduellement pour pouvoir couvrir donc l'ensemble des besoins, surtout dans les zones fortement touchées.
DW.
Sensibiliser, mobiliser les ressources, coordonner les actions, mais aussi rendre accessibles les traitements et vaccins. Autant de défis pour stopper la propagation du Mpox. Dans les pays fortement touchés comme la RDC, des organisations comme Save the Children appuient l'action des autorités sanitaires. C'est ce que nous explique Oana Mihai, la directrice humanitaire de l'organisation que nous avons déjà entendue au début de cette émission.
Pour nous, la stratégie de riposte pour cette épidémie spécifique en RDC avait été d'abord, premièrement, donc d'essayer de faire le maximum possible d'empêcher la propagation, surtout dans les zones densément peuplées que sont les camps des déplacés à l'est de la RDC. En deuxième lieu, pour nous, il était aussi important, effectivement, donc de travailler sur le renforcement des capacités et de la protection du personnel médical qui est en première ligne de mire. Le troisième axe, mais non des moindres, était celui donc de voir comment est-ce qu'on pouvait rapidement appuyer les enfants les affectés, comme on l'a dit, statistiquement par cette maladie.
C'est avec ces précisions de Oana Mihai de l'organisation Save the Children que prend fin ce magazine. Merci à elle et merci également au docteur Serge-Michel Codom et à vous, chers auditeurs, pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission.